ラジオオカピオカピ
オカピ service avec Tati Mapoko
オカピ。
Chers auditeurs auditrices de Radio Okapi, bonjour et bienvenue dans votre magazine Okapi Service, l'émission qui traite les questions de la vie au quotidien. Quels sont les préalables à remplir pour améliorer les prochains cycles électoraux en RDC? Nous en parlons avec Bishop Abraham Djamba, il est coordonnateur de la mission d'observation électorale au regard citoyen. Nous l'aurons bientôt ici au studio. Si vous êtes intéressé par ces sujets, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 099-706-9941. Appelez-nous, nous allons vous rappeler pour intervenir en direct par SMS. Envoyez vos questions et commentaires au numéro 099-706-9941. C'est aussi possible de nous laisser vos commentaires sur la page Facebook d'Okapi Service. Nous lisons par exemple les commentaires de Monsieur Ismaël qui nous a écrit depuis la ville de Lubumbashi. Selon cet internaute, la CENI doit être indépendante car aujourd'hui, certains membres de cette institution d'appui à la démocratie émanent des partis politiques. Nous entendons également vos commentaires dans les courriels dénommés service@radiokapi.net. Tati Mapoukou vous présente et coordonne ce numéro sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Julie Feza Bongona réalise cette émission et Polydor Bastunga s'occupe de la prise de son. Toute l'équipe vous souhaite une excellente condition d'écoute de ces rendez-vous d'Okapi Service.
Le magazine des Nations Unies.
Magazine des Nations Unies. Le magazine des Nations Unies, tout sur les faits saillants des agences du système des Nations Unies. Chaque dimanche à 8h30 et en rediffusion à 19h05.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix. Quels sont les préalables à remplir pour améliorer les prochains cycles électoraux en RDC? Nous en parlons, comme j'ai introduit dans ces rendez-vous d'Okapi Service, avec Bishop Abraham Djamba. Nous rappelons qu'il est le coordonnateur de la mission d'observation électorale Regard Citoyen. Si vous êtes intéressé par ces sujets, n'hésitez pas à nous appeler pour intervenir en direct au numéro 099-706-9941. Appelez-nous, nous allons vous rappeler pour intervenir en direct par SMS. Nous attendons vos commentaires au numéro 099-706-9941. C'est aussi possible de nous laisser vos commentaires sur la page Facebook d'Okapi Service. Nous lisons les commentaires, par exemple, de M. Ismaël qui nous a écrit depuis la ville de Lubumbashi. Il nous dit ceci. La CENI doit être indépendante car aujourd'hui certains membres de cette institution d'appui à la démocratie émanent des partis politiques. Nous attendons également vos commentaires dans les courriels dénommés service@radiokapi.net. Bishop Abraham Djamba, bonjour et bienvenue dans Okapi Service.
Bonjour, merci beaucoup.
Le Regard Citoyen a fait une analyse du déroulement du cycle électoral dernier. Quel est le constat qui a été dégagé?
Je voudrais partir de l'observation de l'auditeur tout à l'heure là. Effectivement, parmi les constats que nous avons eu à retenir, il y a l'indépendance de la CENI. L'indépendance de la CENI souffre de mécanismes de désignation de ces animateurs. Parce que ces mécanismes-là, on n'a pas réussi à en faire un mécanisme totalement indépendant aussi, et neutre, ce qui fait que à chaque cycle, il y a des contestations lorsqu'il y a désignation des animateurs de la CENI, et plus spécialement le président. Alors nous suggérons Nous avons des recommandations donc par rapport à cela.
Oui, nous allons aborder des suggestions, des propositions dans les corps de ces rendez-vous d'OCAPI Service. Le monitoring, donc, l'analyse a été faite sur l'ensemble territoire national ou ça a été fait partiellement dans certaines régions?
Non, nous étions sur l'ensemble du territoire national dans les 26 provinces. Mm-hmm. Nous étions aussi dans la plupart de territoires. Et donc, nous avions eu des observateurs de long terme, mais aussi des observateurs de court terme qui se sont déployés. Et donc, nous avons eu des remontées à partir de chaque province. Donc, nous avons une vue panoramique sur le processus électoral qui s'est déroulé.
Et vous avez déployé combien d'enquêteurs sur l'ensemble du territoire national? Est-ce qu'on peut avoir une idée sur le nombre d'agents enquêteurs que vous avez déployés pour faire ce travail de monitoring?
Oui, nous avons eu près de 18 000 demandes d'accréditation, mais finalement nous n'avons pu obtenir que 14 000. Mmh. Et sur les 14 000 observateurs, nous avons pu recueillir les remontées d'à peu près 10 000 observateurs.
Est-ce que maintenant on peut décortiquer les recommandations qui ont été faites sur base des informations collectées sur terrain, Bishop Abraham Djamba?
Oui. Alors je parlais de la CENI parce qu'il
l'indépendance
faut
de la CENI.
Commencer par là. Mm. Donc l'indépendance de la CENI. Vous voyez, dans la loi, on prévoit que les animateurs de la CENI soient des personnalités indépendantes. Alors, il y a toujours eu un débat par rapport à ça depuis 2011, lorsque le législateur a introduit la notion de personnalité indépendante.
À diriger ou à gérer la CENI?
Oui. Mmh. Donc, ce n'est pas très clair. Disons, ce n'est pas précisé au niveau de la loi, ce qui fait que les partis politiques aujourd'hui désignent des animateurs, des responsables même des partis politiques comme étant membres de la CENI, et ça fausse un peu
le processus,
l'indépendance.
Nous proposons que le législateur sur les activités de la CENI a une incidence sur la crédibilité des élections, c'est ça?
Oui, c'est-à-dire que les politiciens qui sont au niveau de la CENI ne saurait jamais être totalement neutre, indépendant, parce qu'ils sont là pour représenter leur parti politique, et donc il y a quand même un certain biais dans leur manière de considérer les choses. Donc nous souhaitons que les législateurs précisent cette notion de personnalité indépendante dans la loi, et nous avons des éléments que nous avons avancés.
Lesquels, par exemple?
Par exemple, il ne faut pas faire partie du directoire d'un parti politique dans les 5 dernières années. Mmh. Il ne faut pas, avoir des opinions politiques tranchées par rapport à l'un ou l'autre camp, etc. Donc, on a donné des critères que nous proposons donc aux législateurs pour que ça soit précisé dans la loi. Alors, la deuxième chose, c'est les mécanismes de désignation. Nous proposons qu'il y ait une commission avec toutes les parties prenantes.
Les désignations du comité dirigeant la CENI.
De tous les membres de la CENI.
De tous les membres de la CENI.
Les présidents, les membres du bureau, les membres de la plénière. Et donc, que toutes les candidatures soient centralisées au niveau d'une seule commission. Donc ça signifie que toutes les parties prenantes vont désigner tous les animateurs. Alors, cette commission va travailler dans la transparence. Les personnes qui pensent avoir rempli les critères pour postuler déposeraient leur candidature. On publierait la liste des personnes qui ont déposé de candidature, et la commission va se réunir. On peut imaginer à plusieurs étapes pour sélectionner, et à la fin, la commission retiendrait 3 noms pour chaque poste. Et de ces 3 noms maintenant, les noms seront envoyés soit au niveau de l'Assemblée nationale, soit au niveau d'une commission plus large, qui élirait en l'or les animateurs, et les noms seront transmis au président de la République pour investiture. Donc, avec cela, nous pensons qu'il y a moyen de pouvoir atténuer un peu tout ce qu'on connaît autour de la désignation des animateurs de la CENI et obtenir un peu plus de consensus autour de ceux qui sont appelés à gérer la CENI. Parce que lorsque il n'y a pas de consensus, eh bien, le processus lui-même est impacté négativement par rapport à cela.
Et concernant le déroulement des élections, les modes de vote, les modes de scrutin, est-ce que vous avez également des suggestions et mis des avis par rapport à ça?
Oui, le mode de scrutin, il y a particulièrement le seuil. Le seuil de recevabilité qui a été introduit par le législateur dans la dernière réforme, nous encourageons cela. Parce que il permet de pouvoir quand même contenir l'engouement vers les postes politiques. Et donc, en plus du seuil de recevabilité, nous pensons que on ne peut pas ajouter encore le seuil de représentativité, le seuil légal de représentativité. Parce que la manière dont ce seuil-là est géré n'est pas très, très transparente. C'est ça, d'abord. Et puis, c'est très, très compliqué pour le commun des Congolais. Ça frustre les électeurs parce que vous pouvez voir dans votre circonscription, votre élu en tant qu'électeur a eu 15 000 voix. Mais à la proclamation, c'est celui qui a 1000 voix ou peut-être moins qui passe. Ça frustre terriblement les électeurs. Ouais. Et nous pensons que il y a lieu de supprimer ce seuil légal de représentativité. Il y a aussi au niveau de scrutin indirect beaucoup de problèmes de corruption. Et donc, nous suggérons que...
Concernant les élections des gouverneurs...
Sénateurs, les maires, bientôt là et tout le reste. Donc, nous suggérons que à ce niveau-là, puisque, par exemple, pour l'élection des sénateurs, c'est connu qu'avec quatre élus provinciaux, donc députés provinciaux, on peut avoir un sénateur. À ce moment-là, qu'on donne la responsabilité de désigner les sénateurs aux partis politiques, au prorata de leurs élus. Et donc, on va éviter la question de la
transhumance ou des négociations,
qui mettent aussi là, oui. les partis politiques eux-mêmes en difficulté avec leurs propres élus, leurs propres membres. Donc, nous suggérons cela, et cela a l'avantage aussi de pouvoir si vous voulez économiser sur le plan de ressources publiques. Donc, il y a cela. Il y a aussi, vers la fin du déroulement des scrutins, bien sûr, il y a le fait que les candidats ne sont pas habilités à introduire leur recours tant qu'ils n'ont pas l'autorisation du parti politique ou de... du regroupement politique. Ça aussi, c'est une violation des droits humains. Nous pensons que le législateur devrait donner ou reconnaître le droit pour les candidats concurremment à son parti politique et à son regroupement politique d'introduire un recours s'il estime que...
Il est dans le droit de faire des réclamations.
Effectivement. Alors, donc, c'est globalement cela. Et là, je suis en train de vous indiquer tout simplement ce que nous considérons comme des recommandations majeures qui pourraient avoir, qui pourraient apporter une valeur ajoutée à notre processus si jamais les législateurs pouvaient les adopter.
En même temps aussi, concernant les recours, on a vu au niveau de la Cour constitutionnelle, lors de l'introduction des recours, ce qui était validé au niveau de la CENI...
La fameuse question de l'erreur matérielle.
Oui, donc ça a laissé un goût très amer chez nombre de candidats.
Très amer, et nous pensons que la Cour constitutionnelle devra se ressaisir sur cette question-là. J'ai été dans une rencontre où Il y a eu plusieurs parties prenantes, les élus, les partis politiques, les organisations de la société civile, les missions d'observation électorale, les organisations internationales, où la Cour se défend aussi à sa manière, mais nous pensons quand même que les erreurs matérielles ne peuvent pas corriger en fait les arrêts de la Cour qui sont censés être
irrévocables,
donc opposables à tous, y compris à la Cour elle-même.
Bishop Abraham Djamba, il y a également le système de vote électronique qui a été introduit depuis, là on est au deuxième cycle, depuis 2015-2016. Est-ce que vous avez également émis des avis concernant les modes de scrutin et les votes électroniques?
Oui, parce qu'une mission d'observation prend en compte toutes les situations. Et l'avantage d'une mission d'observation, c'est de considérer les choses vraiment avec recul, avec beaucoup de détachement. Parce que ce qui est important dans un processus électoral, il y aura toujours des problèmes, il y aura toujours des erreurs, il y aura toujours des difficultés, des défis, il y aura toujours aussi des cas extrêmes. Mais ce qui est important dans tout processus électoral, c'est de pouvoir penser à l'amélioration du processus futur. Donc, tirer les leçons de tout ce que l'on a constaté au cours du processus pour améliorer le processus futur. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs nous sommes en train de tirer la sonnette d'alarme. Nous voulons que cette fois-ci la question de réforme soit abordée suffisamment à temps pour que nous puissions avoir des lois qui soient impersonnelles. Et donc pour que nous ayons des lois impersonnelles, que ça ne dépende pas seulement des politiciens et des élus qui sont dans les hémicycles, nous souhaitons qu'il y ait un dialogue de toutes les parties prenantes. À l'issue de ce dialogue-là, ou un débat ou un forum national qu'on tiendrait sur les réformes, à l'issue de cette rencontre-là, eh bien les parties prenantes vont se convenir sur des lignes directrices qui seront tout simplement transformés par les élus en termes de loi, pour que nous ayons des lois impersonnelles. Sinon, ça sera toujours des lois
taillées sur mesure,
du plus fort et tout ça. Donc, vraiment, nous tenons à ce qu'il y ait un sursaut patriotique, parce que ce que nous relevons aujourd'hui, c'est des erreurs ou des faiblesses que nous traînons depuis 2006.
Et qui donc, se répète
tout le temps.
C'est
tout
pas
le
intéressant,
temps.
Oui.
Il faut qu'à un certain moment, que nous disions non, plus jamais ça, nous arrêtons. Vous savez, je crois que c'est au Nigeria qu'on a eu à un certain moment des élections qui ont entraîné des violences. Et tout ça. Et toutes les parties prenantes ont regardé, ils ont dit, il faut qu'on arrête ça. Et tout le monde s'est mis sur la table.
Pour corriger les erreurs.
On a fait des analyses, on a échangé et ils ont trouvé des solutions et des mesures qui arrangeaient tout le monde pour qu'il n'y ait plus autant de violences qu'ils avaient connues auparavant. Donc nous souhaitons que cela se fasse aussi dans notre pays.
Bishop Abraham Djamba, dans cette émission, nous donnons également la parole à la population. Donc, on va aller au standard pour donner la parole aux premiers intervenants. Quels sont les préalables à remplir pour améliorer les prochains cycles électoraux en RDC? Nous en parlons avec Bishop Abraham Djamba. Nous rappelons qu'il est le coordonnateur de la mission d'observation électorale Regard Citoyen. Si vous êtes intéressé par ces sujets, n'hésitez pas à nous appeler pour intervenir en direct au numéro 0 99 706 99 41. Appelez-nous, nous allons vous rappeler pour intervenir en direct.
Dialogue entre Congolais. Les débats politiques, c'est dans Dialogue entre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous. Car Dialogue entre Congolais, c'est aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi, de 19h15 à 20h et sur Internet, sur www.radiocapi.net.
Le premier auditeur, il nous appelle depuis Boulungou, il s'appelle et bienvenue. Bonjour Monsieur Kikala et bienvenue dans Okapi Service.
Bonjour Tati, bonjour à tout le monde.
On vous écoute. Bienvenue dans Okapi Service.
Allô?
Allô, nous vous recevons.
Oui, je vous saisis juste à peine.
Oui, je dis, on vous donne la parole. Oui, allô, est-ce que vous m'entendez, monsieur Bienvenu?
Vous souhaitez un peu pour que...
Nous tablons sur les préalables qu'il faut remplir pour améliorer les prochains cycles électoraux en RDC à la suite du monitoring qui a été fait par Regard Citoyen concernant le déroulement du cycle des dernières élections. Est-ce que vous avez un commentaire ou un avis à émettre à ce sujet?
Oui, j'ai également un commentaire. Je disais, la CENI, si vous lisez notre constitution, c'est parmi les institutions d'appui à la démocratie. Mmh. De par sa dénomination, on dit que c'est une institution indépendante. Mais comment voulez-vous qu'une institution soit indépendante où les personnalités qui les managent ou qui les pilotent ne sont pas du tout indépendantes? Je crois que le bishop, à l'introduction, il a si bien souligné. Mmh. On pouvait s'attendre à une institution totalement indépendante lorsque nous avons des personnalités indépendantes, peut-être ici de la société civile. Là, au moins, on peut s'assurer. Mais lorsque nous avons des personnes qui viennent avec leur couleur politique, tout ce qu'ils peuvent dire, même les serments qu'ils font, là, ils ne seront pas indépendants. Nous constatons de plus en plus à chaque cycle électoral, au lieu que la qualité des élections puisse être améliorée, mais nous sommes en train de reculer. Quand vous voyez les élections de 2600 comparées avec celles de 2023, vraiment, il n'y a pas photo. Au lieu qu'on évolue, nous, par contre, nous reculons. C'est question actuellement de mettre tout sur la table, on peut faire une réforme profonde, tout d'abord par partage de la loi qui organise la CENI, des personnes qui doivent les piloter pour que nous ayons une institution qui reflète au moins notre pays. Parce qu'à ce moment, les élections qui sont organisées dans notre pays, moi je dirais même, on a des élus nommés qui ne sont pas votés par la population. Donc, juste on fait ça pour les besoins de la cause, mais en réalité, ce ne sont pas les gens que nous élisons.
Oui, monsieur Bienvenu, il y a également les membres, les personnalités au fait qui sont également recrutées au sein de la société civile pour la gestion de la CENI, pour la direction de la CENI.
Oui, il y a des personnalités qui viennent au sein de la société civile, mais il faut faire la proportion entre ceux qui viennent des familles politiques et les membres de la société civile. Les politiciens sont plus nombreux que ceux qui viennent de la société civile, du coup ils vont influencer sur les résultats ou les décisions, parce que s'il faudrait aller pour voter par rapport à prendre une décision. Et ils sont d'ailleurs nombreux.
Merci beaucoup. Nous rappelons que c'est depuis Boulungou que vous intervenez. Excellente journée. Bishop, comment répondez-vous à notre auditeur? Il constate que il y a un problème d'indépendance qui se pose. Nombre de dirigeants de la CENI sont issus des partis politiques et la société civile est sous-représentée et cela entache au fait la crédibilité même la crédibilité de ces élections.
Oui, je suis d'accord avec lui, mais je voudrais quand même nuancer parce que dans notre entendement, lorsque nous parlons de personnalités indépendantes, il ne suffit pas seulement d'être de la société civile pour être reconnu comme personnalité indépendante.
Ouais.
C'est toute une enquête qui doit être menée autour de la personnalité. Il s'agit de désigner des personnalités au niveau de notre nation. Donc, tout le monde devrait émettre l'avis sur les personnes qui sont désignées. Et ce doit être des personnes reconnues pour leur indépendance. On peut en trouver dans la société civile, on peut en trouver aussi, je peux dire, de manière un peu plus large, dans la société civile plus large que celle des organisations, où on peut trouver
dans les universités,
un ancien professeur et tout cela. Donc, des personnalités véritables, c'est-à-dire des personnes qui sont connues dans leur milieu comme étant des personnalités indépendantes. Et donc, c'est pourquoi nous suggérons qu'il y ait une commission avec toutes les parties prenantes, mais aussi nous proposons une publicité, une grande publicité autour de ce processus-là, pour que les citoyens qui ne sont pas de la commission, tous ceux qui sont en dehors, puissent être à mesure de pouvoir émettre leurs avis sur les personnalités qui sont en train d'être sélectionnées. Et donc, je crois que c'est de cette manière-là qu'on pourrait gagner sur le plan de l'indépendance, mais en plus, nous suggérons des mesures pour s'assurer du devoir d'ingratitude de ceux qui seront désignés au niveau de la CENI vis-à-vis de toutes les parties prenantes. Donc il y a des mesures qui vont suivre aussi. C'est quand vous êtes désigné animateur de la CENI, donc il y aura aussi d'autres mesures pour s'assurer que vous gardez cette
votre
indépendance
et notre neutralité
jusqu'à la fin.
Oui. Il y a un auditeur, Bishop, qui nous a écrit depuis Kananga. Il dit les confessions religieuses doivent mettre du sérieux dans le choix des dirigeants de la CENI, car elles nous présentent souvent des dirigeants qui viennent des partis politiques d'une manière voilée, au bec de Kananga.
C'est pour cette raison que nous suggérons que ça soit maintenant une commission mixte avec toutes les parties prenantes, les confessions religieuses, les organisations de la société civile, je sais pas moi, les partis politiques, les corporations, etc. Que ce soit une commission, en tout cas, neutre déjà, qui se neutralise pour désigner les animateurs et de pas continuer à laisser ce poids-là aux seules confessions religieuses. Parce que il ne faudrait pas que non plus le fait de confier donc cette la responsabilité aux confessions religieuses nous amène aussi à des tiraillements au niveau des confessions religieuses. Ce n'est pas une bonne image. Donc nous suggérons que on puisse étendre la responsabilité à toutes les parties prenantes.
Nous allons retourner au standard. Cette fois-ci, nous partons à Bounia pour donner la parole à M. Thomas. Thomas, bonjour et bienvenue dans Okapi Service.
Bonjour M. Tati et bonjour à l'invité ainsi qu'à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Oui, on est en train de décortiquer le travail qu'a fait Regard Citoyen concernant le déroulement du dernier cycle électoral. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Est-ce que vous avez un avis à émettre à ces sujets?
Merci pour la parole nous accorder une fois de plus. Je pense, M. Tati, on est au quatrième, ça s'est passé récemment ici, on était au quatrième cycle électoral. Face à ça, comme les thématiques du jour étaient... était de sur les rapports là de Moé, des rapports de ces observateurs, j'arrive. Je pense pour améliorer prochainement notre cycle électoral, je pense d'abord il faut qu'il y ait l'élaboration des calendriers électoraux clairs et transparents, parce que la loi électorale nous dit on doit organiser, il faut 90 jours avant la fin du mandat, par exemple du président, il faut déjà qu'on puisse avoir un calendrier clair. Mais ça s'est passé avec l'élection de 2023 ici, où déjà d'autres gens étaient déjà il y a des calendriers, parce que nous là on était déjà appelé calendrier, mais on a vu dans les massifs où la CENI a donné encore un autre calendrier. Nous, on n'a pas compris comment, dans un même pays, on peut avoir des calendriers tout à fait différents. Nous sommes déjà avancés, les autres vont encore commencer. Vous voyez, si on ne respecte pas les 90 jours là, si le législateur a prévu les 90 jours là, il savait pourquoi. Mais lorsque vous avez voir ici, on est allé après 90 jours. Mais tant mieux, avec la magie que monsieur Kadimaï a fait quand même, il n'y a pas eu de retombées quant à ça, mais prochainement, il faut améliorer, on doit organiser les choses de façon correcte. Mais aussi, il faut qu'il y ait, est-ce qu'on a une CENI vraiment indépendante? Ça aussi, c'est une grande question qu'on doit se poser, parce que on voit le président de la CENI être plus du côté du pouvoir. Je ne sais pas si vous avez fait cette allusion-là, parce que comment fait-il que les machines ont été retrouvées entre les mains des individus. Jusqu'à aujourd'hui, M. Kadima ne nous a jamais dit la source ou la provenance de ces machines-là. Comment la machine électorale peut être retrouvée entre les mains des individus? Nous passons à la prochaine cycle électorale. Il ne faut pas qu'on puisse assister à telles affaires.
Oui, mais monsieur Thomas... Oui, monsieur Thomas, mais oui. En même temps aussi, il faut tenir compte des aléas liés à l'acheminement de matériel. Parfois, c'est compliqué, on est sous le tropique, il pleut, il faut acheminer le matériel par avion, par camion, par moto. Parfois, c'est compliqué, hein.
Oui, je comprends quand même les contraintes là, c'est tout à fait normal parce qu'on a, on n'a pas de route. Mais lorsque vous savez qu'on n'a pas de route, tant mieux commencer avant, même 3 mois avant. Pourquoi attendre si les F, si les 92 jours là, si on respectait ça, je pense qu'on devait s'en sortir. Je comprends les contraintes de sécurité parce que vous pouvez arriver dans un milieu où il n'y a pas de route, c'est quand même impossible. Je comprends ça, mais il y a un principe qui dit mieux vaut prévenir que guérir. On doit anticiper les choses lorsqu'on connaît que dans un milieu où c'est, ça sera impossible. Par exemple, dans un mois de faire ça, tant mieux commencer avant c'est la date là pour ne pas embrouiller les gens. Mais aussi, il y avait, je disais ceci, il y a de la part de la CENI est couteau à double tranche. On a vu, on a sanctionné certains candidats auxquels on a retrouvé des machines, etc. Mais pour les membres de la CENI, il n'y a pas eu de sanction. Comment des fois des mesures, on peut sanctionner une catégorie et laisser d'autres? Nous pensons que prochainement, on ne peut pas assister à de telles choses. On a sanctionné bien sûr les candidats auxquels on a retrouvé des... Ils ont triché, ils ont trouvé des machines entre leurs mains, on les a sanctionnés publiquement. Mais comment pour les membres de la CENI, ça n'a pas été fait. Je ne sais pas si ça s'est fait, mais jusque-là, il n'y a encore rien. Ça n'a rien ne s'est fait quant à ces membres ou ces gens de la CENI. Mais on a sanctionné certains politiciens ou certains candidats auxquels on a retrouvé des machines. Nous pensons qu'on doit être sérieux dans ce qu'on fait.
Merci beaucoup, M. Thomas. Oui.
Équitable. Oui. Une catégorie va désavantager l'autre. C'est pas bien. Nous pensons que la CENI doit aussi revoir cette affaire-là. On doit sanctionner tout le monde de façon identique. C'est-à-dire, si c'était, on a fait pour les politiciens, si la RTNC est une chaîne nationale, on également devait l'appliquer chez les agents ou les membres de la CENI.
Merci beaucoup, M. Thomas. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Bounia que vous intervenez, Bishop Diamba. Comment réagissez-vous aux commentaires de l'auditeur de Bounia? Il s'agit de Thomas.
Il a raison, parce qu'effectivement, nous reconnaissons que la CENI actuelle a eu à faire face à un calendrier où... un temps vraiment très pressant. Le calendrier était très très contraignant. Il n'y avait pas beaucoup de flexibilité. Et donc c'est déjà un défi que nous avons avec nos processus électoraux. Et nous suggérons aussi que on puisse donner la possibilité à la CENI de pouvoir planifier à temps ces opérations, parce que là par exemple je crois que c'est maintenant qu'on devrait être déjà en train de réfléchir pour nous proposer
pour le prochain cycle, oui.
Pour 2028. Vous savez que la CENI actuelle va aller presque aux portes de 2028 selon le mandat. Alors ça va se passer comment? Est-ce qu'il y a, il va y avoir de la continuité, ou est-ce que c'est la nouvelle CENI de 2027 qui va
prendre
proposer
la relève,
calendrier. Et dans ces conditions-là, ça sera encore
trop serré,
la même chose. Donc c'est tout cela que nous pensons pouvoir amener au débat et à la réflexion. Il parlait du président de la CENI
qui donnait l'impression d'avoir de penchant du côté mouvance dirigeante.
Ça c'est à tous les processus, on a cette perception là. Mais je crois que pour corriger cela, il faut faire fonctionner le cadre de concertation comme un véritable cadre de concertation. Le cadre de concertation, c'est un espace d'échange où toutes les parties prenantes viennent. Si vous voulez, sur le même pied d'égalité, pour échanger, tirer des résolutions qui vont être coulées sous forme de décisions au niveau de la CENI. Alors, si cela se fait de cette manière-là, eh bien, c'est toutes les parties prenantes qui auront contribué, donc on n'aura pas accusé les présidents de la CENI ou autres de penchants et tout cela. Donc, il faut que le cadre de concertation, c'est ça aussi nous le demandons aux législateurs, que le législateur puisse préciser que le cadre de concertation est un mécanisme, si vous voulez, sous la responsabilité de toutes les parties prenantes. Dans
oui,
ce
mais,
sens
mais,
que.
Oui, mais ces cas de concertation chacune, ont toujours existé, non?
Oui, mais fonctionnant mal. Parce que c'est la CENI qui a la mainmise sur le cadre. C'est quand la CENI le veut que le cadre est convoqué. Et souvent, c'est à sens unique. On vous donne des informations. Il y a très peu de débats, etc. Donc, ce qu'il faut recommander, c'est que toute partie prenante puisse avoir la possibilité
de se prononcer
d'ébranler
sur le sujet et
puis la réunion, donc d'avoir l'initiative de la réunion, qu'on enlève un peu tout ce qu'il y a autour là, des perdièmes ou des transports qu'on distribue, que ça soit vraiment un espace où des responsables viennent discuter, on tire des résolutions communes qui vont être transformées par la CENI. Donc que la périodicité de ces cadres de concertation soit aussi clairement fixée, etc. Alors, je crois que cela pourrait corriger toute mauvaise perception qu'on peut avoir du processus ou de ses animateurs.
Nous retournons à nouveau aussi au standard. Oui. Il y a un auditeur qui appelle de Kinshasa, il s'appelle Elvis. Elvis, bonjour et bienvenue dans Okapi Service.
Bonjour Tati.
Bienvenue, on vous donne la parole.
Ouais, c'est que l'auditeur précédent avait parlé, il avait raison. Ce qui s'est passé ici, on ne pouvait pas appeler de cela des élections ou que ce soit. C'est pourquoi de telles émissions sont des émissions peut-être que les autorités doivent aussi suivre pour et peut-être comprendre aussi les avis des Congolais. Parce que par exemple, lorsqu'ils ont dit, et comme l'auditeur l'avait dit, on a confisqué, on a trouvé des députés avec des machines à voter. Ces députés ont été invalidés.
Allô, monsieur Elvis, allô? Vous me recevez? Il y a eu une petite coupure avec l'auditeur de Kinshasa. Est-ce que vous êtes en ligne, monsieur Elvis? Malheureusement, Bishop Djamba, il est revenu. Il est là. Il est revenu, au fait, l'auditeur de Kinshasa. Elvis est revenu sur la détention de machines à voter par des individus.
Oui, ça, c'est une grande question. Mm. Je souhaite vraiment que cette question soit clarifiée au niveau de la CENI pour que nous puissions savoir quelles sont les mesures qu'il faut prendre pour que cela ne se répète plus. On a connu ça en 2018, et en 2023 aussi, ça s'est amplifié. Il n'y a pas eu de réponse en 2018, et nous voudrons quand même que cette fois-ci,
il y ait
des réponses assez claires.
Clarification,
oui. Nous savons qu'il y a des enquêtes qui sont menées au niveau de la Cour de cassation, où même le procureur général demandait qu'on puisse lui donner des éléments, des preuves, tout ça, et qu'on lui fasse parvenir des données en tout cas. Mais il faut que, au niveau de la CENI aussi, qu'il y ait cette enquête-là, qu'on puisse tirer les affaires au clair et que par la
parce
suite on
prenne des mesures efficaces. On a sanctionné uniquement des candidats et ouais. Non les agents qui ont permis à ce que ces machines se retrouvent entre les mains des individus.
Bon, selon ce qui a été reporté, certains membres de la CENI ou agents de la CENI ont été sanctionnés, mais il faut que ça soit clair, que ça soit présenté publiquement, qu'on sache aussi comment ces machines sont arrivées entre les mains de personnes qui ne devaient pas les utiliser ou les manipuler en tout cas.
Il y a un auditeur de Lubumbashi, Bishop Djamba, qui a souhaité que l'on puisse confier ses activités d'organisation d'élections au ministère de l'Intérieur parce que avec la CENI, elle n'a pas montré la neutralité.
Mais pourquoi nous sommes arrivés au système de CENI ou de Commission nationale indépendante? C'est tout simplement parce que avec le contexte de notre pays, nous venions de la dictature où le ministère de l'Intérieur, c'était aussi le parti État, et donc il faudrait que au niveau des institutions que l'on puisse démontrer suffisamment de capacités à organiser les élections de manière vraiment neutre, de manière nationale, pour que on puisse retourner donc au ministère de l'Intérieur. Ça doit être un processus Je crois que avec les systèmes de la CENI, malgré les imperfections, il y a plus ou moins confiance, donc il y a moins de réclamations. Donc il va falloir que nous puissions améliorer d'abord ce mécanisme là de la CENI, et je crois qu'il y a moyen de le faire. On peut bien y arriver. Et donc à la longue, lorsque on aura mûri, eh bien lorsque les élections vont cesser d'être une question de vie ou de mort ici en République démocratique du Congo, on pourrait alors
confier cela
et retourner au ministère de l'Intérieur.
Oui, il y a un auditeur qui a voulu. Est-ce que Regard Citoyen également a émis des avis sur la loi électorale, qui a manifesté aussi des faiblesses dans le déroulement des
élections? Justement, quand je parle de seuil légal de recevabilité ou de représentativité, c'est déjà la loi électorale. Mais il y a aussi la question des résultats. Les résultats, nous nous sommes battus pour que la CENI soit dans l'obligation de publier les résultats sur son site internet, bureau de vote par bureau de vote. Ça a été obtenu, mais il manque quelque chose de très important, c'est les délais. Il faut que les délais de publication soient
bien défini
et fixé par les législateurs, parce que l'information, si elle doit être utilisée par les citoyens, il faut qu'elle soit donnée en temps opportun. Quand c'est donné après le temps, ça ne sert à rien. Donc il y a transparence lorsque l'information est donnée en temps opportun, c'est-à-dire les compétiteurs ont besoin de preuves au niveau de la Cour. Il faut donc publier les résultats suffisamment à temps
Pour permettre à ces candidats de réunir les éléments pour aller
les présenter à la
faire
Cour.
Les recours.
Donc ça c'est très important, mais aussi les formats dans lesquels les résultats sont publiés aussi, ça compte beaucoup. Il faut publier les résultats dans un format qui soit lisible par machine, c'est-à-dire dans des logiciels comme Excel, comme il y a d'autres aussi qu'on utilise assez facilement pour pouvoir exploiter les données qui sont publiées sur Internet.
Bichon, excusez-moi, nous retournons au standard. Hein. Oui. Elvis est de nouveau en ligne, il insiste à définir sans penser, alors on lui donne la parole. Elvis, oui. Vous êtes en ligne, est-ce que vous nous recevez? Elvis, vous êtes en ligne? Malheureusement, il n'est pas en ligne. On parlait de l'indépendance de la CENI.
Oui, je crois qu'on a répondu à sa préoccupation. C'était les machines. Comment il s'était retrouvé entre les mains de...
On me signale qu'Elvis est là. Elvis, oui. Bonjour et bienvenue dans Capi Service. On vous donne à nouveau la parole.
Allô?
Nous vous recevons 5 sur 5. Allez-y, on vous écoute.
Allô, monsieur le journaliste.
Je vous reçois 5 sur 5, Elvis. Monsieur Elvis, on vous donne la parole. Allez-y. Elvis, vous avez le retour de la radio.
Allô?
Ça va altérer la qualité de l'écoute. Réduisez le volume de la radio, écoutez-nous au téléphone et on vous donne la parole. Malheureusement, la communication s'est dégradée. Hein, s'est dégradée avec l'auditeur de Kinshasa. Bishop, au dernier cycle électoral, les élections sont passées en 2-3 jours, alors que la loi dit on ouvre à 7h30 et on ferme les bureaux de vote aux derniers votants. Mais ce qui n'a pas été le cas lors du dernier cycle électoral. Vous avez également émis des avis à ces sujets?
Oui, nous avons émis des avis. Évidemment, ce dérapage-là est venu du fait que la CENI n'avait pas terminé sa préparation quant au déploiement de matériel et tout cela. On comprend que c'est venu de la contrainte
liée au temps
du calendrier et aussi des moyens qui n'ont pas été
mobilisés à temps.
Et donc, nous proposons que le budget de la CENI soit désormais libéré par dotation trimestrielle, de sorte qu'il n'y ait pas que la CENI ne soit pas en train de courir pour organiser ses propres opérations, mais aussi courir derrière l'argent. Donc, toutes ces questions-là sont liées. Évidemment, la loi n'a pas prévu des jours supplémentaires d'élection. C'est en une seule journée. Et même lorsque on doit décaler les heures, il faut que les bureaux se réunissent pour que
évaluer la situation et lever l'option
avec motivation. Et donc quand ça s'est étalé sur 6-7 jours, c'est vraiment limite. Et nous avons frôlé la catastrophe. Heureusement que les électeurs étaient tout à fait décidés de voter. Ils étaient impatients de voter. On a connu des cas où des électeurs sont restés toute la journée jusqu'à 3 heures du matin. Les votes commençant 3 heures du matin, ils ont voté. Il y en a qui sont revenus plusieurs fois pour voter le troisième, le quatrième, voire le septième jour. Et c'était quelque chose de formidable de la part des électeurs, mais sous le plan strictement légal, ce n'est pas défendable.
Et concernant les dépouillements également, il y a eu aussi beaucoup d'irrégularités constatées dans les dépouillements des bulletins de vote.
Oui, les dépouillements, bon. Les dépouillements, en fait, les dépouillements n'a jamais posé de problème. Le problème commence au niveau de la compilation. Et lorsque les résultats sont remontés au niveau de la centrale.
Progressivement, oui.
Donc, c'est pour cette raison que nous tenons à ce qu'on publie les résultats bureau de vote par bureau de vote. Parce que, à l'issue du dépouillement, tout le monde est là. Les témoins sont là, les observateurs sont là, les agents de la CENI sont là. On a compté les bulletins, on a dressé des PV et on les affiche. Donc, au niveau du dépouillement, en tout cas, il n'y a jamais eu de problème. Alors, si on peut faciliter aux compétiteurs ou bien même à toute l'opinion de pouvoir s'assurer des résultats qui sortent des urnes et qui sont affichés, il n'y aurait pas beaucoup de contestations.
Est-ce que la dimension genre a également été prise en compte dans le monitoring qui a été fait par Regard Citoyen?
Oui, participation de la femme. Il y a une légère amélioration cette fois-ci, avec toutes les mesures incitatives qui ont été mises sur place. Donc il y a une légère amélioration. Nous pensons que ça va continuer. Nous allons continuer encore à pousser pour la femme. Il y a des recommandations que nous avons faites aussi pour améliorer les mesures qui ont été prises en 2023 afin que le quota de la femme puisse être davantage relevé.
Est-ce que vous avez également émis des avis sur les violences qui ont caractérisé ce cycle électoral? Il y a les violences et puis les régionalismes qui avaient tendance à prendre les pas sur le processus.
C'est là que nous avons insisté aussi sur l'éducation électorale, parce qu'il faut préparer l'opinion. L'éducation électorale qu'on a connue en 2023 a connu un certain déficit sur le plan communicationnel. Parce que on poussait les gens, on préparait les gens à faire face à la fraude massive. Tout ça, c'est rentré dans le subconscient de l'opinion.
Des électeurs, oui.
Des électeurs, à tel point que les électeurs étaient braqués. Ils attendaient tout mouvement suspect pour pouvoir incriminer les gens, et on a vu ce que cela a donné. Donc, il faut que nous ayons désormais une éducation électorale bien menée avec des professionnels, et donc faire de l'éducation électorale une obligation, c'est-à-dire qu'il y ait des moyens chaque fois qu'il y a processus électoral pour que les citoyens soient clairement bien informés, qu'ils connaissent leurs droits, qu'ils sachent comment se comporter, même lorsque elles découvrent des fraudes. Parce que souvent, les électeurs eux-mêmes détruisent les preuves de fraude. Et donc, il faut que...
Et lorsqu'ils détruisent, il n'y a pas de traces, c'est compliqué même pour les candidats. Voilà. Et pour, voilà.
Exact. Donc, il faut vraiment préparer les électeurs par rapport à cela. La violence, bien sûr, nous avons recommandé au parquet de pouvoir poursuivre. Mais aussi, ce qui était insupportable, c'est la violence qu'on a faite aux femmes. Nous avons des observateurs qui avaient été molestés. Donc je crois que c'est des choses qu'on ne doit plus accepter, en tout cas. Voilà. Les élections, ça devrait être un moment de communion nationale. On vient pour dire voilà, nous allons choisir nos dirigeants, nous les choisissons dans la sérénité, de sorte que nous ayons de bons dirigeants pour que ça ne se passe pas dans la tension, la précipitation. Mais il faut travailler à tous les niveaux pour que les esprits soient véritablement apaisés, et que lors des élections, on puisse avoir des élections assez crédibles. Donc la crédibilité des élections, c'est aussi dans son caractère apaisé. Ça permet de pouvoir faire des analyses, et, décortiquer, exploiter les données.
Et quelle est la prochaine étape, après avoir compilé les données et mis des avis, quelle est la prochaine étape pour Regard Citoyen? On est presque à la fin de l'entretien.
Pour Regard Citoyen, effectivement, c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous voulons attirer l'attention de toutes les parties prenantes pour dire il est temps maintenant de penser aux réformes. C'est maintenant qu'il faut le faire. C'est maintenant qu'il faut commencer les débats, les réflexions sur les réformes. Et nous voulons que ça soit une réflexion patriotique.
Merci pour beaucoup.
Que nous puissions avoir des lois impersonnelles.
Merci beaucoup, Bishop Abraham Djamba. Nous rappelons que vous êtes le coordonnateur de la mission d'observation électorale au Regard Citoyen. Merci d'avoir été avec nous dans cette émission de pédagogie et sensibilisation. Nous espérons que ce n'est pas la dernière fois. Excellente journée.
Merci, Patrick.